Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là aujourd'hui pour ouvrir la 30e quinzaine du Narthex. La dernière fois, c'était en novembre 2019. Depuis, il y a eu le Covid qui a bouleversé beaucoup de choses. Nous avions cependant l'année dernière voulu renouer en partie avec les rencontres du Narthex en proposant une seule soirée en partenariat avec le cinéma du Paris autour de la question du communautarisme. Mais cette année, nous retrouvons notre rythme de croisière avec une véritable quinzaine du Narthex. Je voudrais dire juste un petit mot sur le Narthex, même si la plupart d'entre vous connaissez maintenant ce monde barbare. C'est donc un espace dans une église, à l'entrée d'une église qui fait le lien avec ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Symboliquement, c'est un lieu d'ouverture, un lieu d'ouverture à l'autre, d'échange, de dialogue. Mais c'est aussi à part une église de chrétiens, catholiques et protestants, qui se propose d'échanger sur des sujets de société et qui, depuis 30 ans maintenant, invite tous ceux qui le souhaitent, croyants ou non, à partager sur ces sujets. Alors je lis simplement au verso du prêtre que vous avez certainement, sinon vous en trouverez à la sortie, les thèmes que nous avions abordés les autres années, universalisme au communautarisme, peuple, parole et vérité, le progrès, chance ou menace, tous fragiles, tous humains, le travail, réalité et défi, oser la fraternité, l'économie autrement, voyez-vous. En fait, tous ces sujets qu'on a pu traiter, et puis bien d'autres, au cours des années passées. Le désir, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, non pas dans un souci ou un esprit de récupération, mais dans un esprit d'ouverture et de dialogue, personne n'ayant la vérité à lui tout seul. Et même tous ensemble, je crois qu'on n'arrive pas à la vérité. Nous percevons bien aujourd'hui, dans nos sociétés fracturées, où chaque groupe, chaque communauté a tendance à se replier, à se refermer, qu'il est vraiment important, encore plus peut-être qu'auparavant, de développer de véritables lieux de dialogue. Le thème de cette quinzaine s'intitule « Travailler pour quoi ?» Quel sens a le travail aujourd'hui ? Beaucoup de questions se posent en effet aujourd'hui autour du travail, de l'emploi, le développement de l'intelligence artificielle, de l'ubérisation, du télétravail, la précarisation de certaines catégories sociales, la difficulté à trouver des personnes pour certains métiers pourtant essentiels, comme le service à la personne, la santé, l'enseignement, le recul de l'âge de la retraite, l'inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et bien d'autres questions que nous pourrons aborder tout au long de cette quinzaine. Alors plusieurs soirées sont proposées. Je prends le tract aussi. Donc la semaine prochaine, lundi prochain, le 20 novembre, toujours à 18h30, Je précise que nous n'avons pas choisi cet horaire de 18h30, peut-être qu'il vous déplaît, je ne sais pas, mais c'est la mairie, que je remercie d'ailleurs pour le prêt de cette salle, qui a demandé que toutes les manifestations se terminent à 21h, je crois pour des économies d'énergie. Donc on a été obligé d'avancer toutes les soirées de l'UNAFES, comme toutes les manifestations qui peuvent se passer ici. Donc lundi prochain, 20 novembre, ça sera une soirée vraiment très originale, une soirée exceptionnelle. On a intitulé ça concert-conf, un concert-conférence avec Guillaume Guéraud, Margot Smirdek, tous deux médecins anesthésistes au CHU de Clermont-Ferrand, sociologues aussi, musiciens. Une soirée sur le sens du travail en milieu médical, en milieu hospitalier, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui. Il y aura des temps de parole et puis des temps de musique et de chansons. Voilà, donc ça sera original. Je pense que ça sera vraiment intéressant. Après, la semaine prochaine également, le vendredi 24, une conférence de Caroline Bauer, qui est enseignante à l'Institut catholique de Lyon en éthique théologique et sociale, ambivalence et sens du travail dans la Bible. Je traiterai ce sujet. La semaine après, le 30 novembre, une table ronde. Ils ont changé de métier. Trois personnes viendront nous dire, Valentin, artisan, Jean, apiculteur, Mathilde, médecin. Bon, ils ont fait un changement radical d'orientation professionnelle dans la vie. Ils viendront nous dire pourquoi ils ont changé de métier. Et puis enfin, le jeudi 7 décembre, en partenariat avec le Parvis, comme chaque fois aussi, nous regarderons un film avec un débat qui suivra, un film de Éric Gravel, À plein temps, c'est sur le travail des femmes, à plein temps, au travail, dans une usine, ou dans un emploi, à plein temps, à la maison, etc. Voilà. Alors pour ce soir, nous accueillons Jacques Le Goff, qui n'est pas un inconnu ici. Il est déjà venu deux fois. Une fois pour parler de la fraternité dans la tradition républicaine et une autre fois pour parler aussi déjà du travail. C'était en 2016. Mais les questions autour du travail ont bien changé depuis 2016. Jacques Le Goff a beaucoup réfléchi sur la question du travail. Il a enseigné à la faculté de droit de Brest le droit du travail, les politiques sociales, les libertés publiques, la philosophie du droit. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques sur le droit du travail, il a publié de nombreux livres. Il a exercé également des responsabilités comme membre du comité exécutif de la section française d'Amnesty International. Il est président actuellement de l'association des Amis d'Emmanuel Mounier. Et puis il a collaboré, sans doute je pense qu'il continue à collaborer à plusieurs journaux, Le Monde diplomatique, Le Monde, La Croix, Ouest-France, les revues Esprit, La Sourière, Pays d'Atelier. Et il a été également pendant une dizaine d'années inspecteur du travail, ce qui veut dire que Jacques Le Goff n'est pas seulement un théoricien, mais une pratique. Voilà, je vais lui laisser la parole, une heure à peu près, et puis nous pourrons intervenir dans vos questions et vos remarques.
Et j'en conserve un très bon souvenir, et même un excellent souvenir. Parce que vous êtes un public sympathique, parce que la salle est agréable, donc vous entendez, non, il y a des problèmes? Pas trop, hein, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas tellement de retour. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de jus, peut-être? Non. Il faudrait que je monte le ton. Plus près du micro. Voilà. Alors je suis content pour cette raison, je suis content aussi parce que pour quelqu'un qui habite Quimper, venir à Tarbes, c'est un moment de grand exotisme. Et j'ai pu m'en apercevoir aujourd'hui, puisque je suis habité Quimper sous Devinet. C'est un petit peu, oui, il fait, on dit toujours qu'en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, mais c'est même plus vrai ça. Depuis trois semaines, c'est vraiment dru et un peu compliqué à supporter. Bon, on se console comme on peut. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes de nappe phréatique. Voilà. Et donc, autant de raisons d'être de content. Jean-Michel indiquait à l'instant que la question du travail me préoccupe depuis quelques temps, pratiquement depuis 45 ans. 45 ans, à la fois d'abord comme inspecteur du travail, puisque c'est là finalement que j'ai découvert véritablement le droit du travail. Je suis prof de droit peut-être, mais je suis prof de droit public. Or, le droit du travail ne ressortit pas du droit public, c'est droit privé. Et donc, je suis à peu près ignorant en droit du travail, je l'ai découvert, etc. Et donc je m'y suis consacré par la suite, après mon expérience à l'inspection du travail, et, bon, j'ai fait des bouquins sur le sujet, pour présenter une histoire du droit du travail d'abord. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venu à me poser la question du travail lui-même, le droit du travail au travail finalement. Et je me suis rendu compte que c'était quand même deux problématiques assez nettement distinctes. Dans le second cas, une problématique évidemment de tonalité beaucoup plus anthropologique, sociologique, tout ce qu'on veut. Voilà. Pour en arriver à la conclusion que, effectivement, la question du travail fait retour. Et même on peut dire qu'elle fait retour en force après une assez longue période qui a été centrée sur l'emploi. C'est-à-dire sur le travail dans sa définition économique, pourrait-on dire. Et dans l'oubli de la question de son contenu, de sa texture. Et plusieurs facteurs, à mon sens, ont contribué à ce retour, je dis bien retour, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi. D'abord, sa métamorphose, évidemment impressionnante, du fait de la montée du tertiaire et maintenant du quaternaire, c'est-à-dire tous les métiers de relation que vous avez évoqués, Jean-Michel. C'est la prise de conscience des nouveaux risques qui accompagnent cette métamorphose, les risques psychosociaux qu'on a découverts, les RPS, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le harcèlement, moral dans l'entreprise. C'est aussi le changement de perception du travail par les jeunes, chez les jeunes, et là on constate un déplacement également assez significatif. Et c'est bien sûr le dossier de la retraite que vous avez évoqué, la retraite qui a été perçue comme la récompense d'une vie de travail et qui a tendance à s'éloigner. Et il faudrait ajouter aussi la crise du Covid qui a eu un impact sur la perception même du travail, avec en particulier le développement du télétravail. Et maintenant, avec le renforcement, je dirais pas l'émergence, mais le renforcement de la question de la semaine de 4 jours, voilà, qui accompagne d'ailleurs le développement du télétravail. Le travail, disait récemment Laurent Berger, qui a d'ailleurs préfacé mon histoire du droit du travail dans sa dernière édition, le travail est aujourd'hui, dit-il, un impensé politique. Intéressant comme expression, un impensé, une sorte de point aveugle, une question qu'on ne se pose pas suffisamment à ses yeux. Aujourd'hui, est en train de prendre une place assez surprenante dans la réflexion sociologique, dans la réflexion anthropologique, avec un développement très puissant de la littérature qui le concerne. Après toute une vague, les images s'il vous plaît, 2 à 6, après toute une vague consacrée à la fin du travail, de la fin du travail, le bouquin fameux de Jérémy Rifkin. Ensuite, la 2. Non, vous ne voyez pas. La 2. Bon, où va le travail humain ? On peut passer rapidement là-dessus, j'y reviendrai. Là. Le travail, une valeur en voie de disparition, sous la signature de Dominique Méda, et puis Guy Asnard, Le travail, c'est fini, c'est des bouquins qui datent des années 80, tout ça, Le travail, c'est fini, c'est une bonne nouvelle. Bref, on peut passer le travail pour l'essentiel par perte des profits, c'est fini, il faut penser à autre chose. On va passer au post-travail, en somme, dans ce temps où le poste avait beaucoup de succès. Voilà. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de la réflexion nouvelle, nouvelle, 30 ans plus tard sur le travail, je signalerai que pour le prix Penser le travail qui est organisé par Le Monde, les étudiants ont eu à choisir 3 ouvrages sur un panel de 85 ouvrages qui leur étaient proposés. 85 simplement, autrement dit, l'année dernière, on peut dire qu'on a consacré au moins 85 ouvrages à cette thématique. Et je passe sur les manifestations diverses. Je prendrai simplement un exemple, l'université d'été du mouvement citoyen organisé à Cluny, sa réunion autour de la question du travail, etc. Le travail disloqué, bref, il est revenu au centre du débat. Et pour aborder la question, je commencerai par un chaud froid, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que malgré tout, la valeur travail se porte bien en jeu. Le travail importe, y compris dans la jeune génération, et je vous le montrerai tout à l'heure. C'est une dimension qui reprend des couleurs de façon tout à fait assez surprenante. La mauvaise nouvelle, c'est que le travail se porte mal. Je veux parler ici de l'emploi exposé à une double crise, une crise quantitative et qualitative. Je reprends le double constat. D'abord, la valeur travail se porte bien, comme le mettent en évidence les sondages qui attestent une impressionnante, je cite, progression de la valeur travail depuis le début de la décennie 2000-2010. Impressionnante progression. 74% des actifs se déclarent en 2015 heureux ou très heureux au travail. Et un sondage d'Opinion Ouest, tout récent, de février de cette année, atteste l'importance du travail pour 72% des interrogés. Important dans la vie. Bon. Là, est-ce qu'on peut avoir les images 7 et 8, s'il vous plaît ? C'est un peu compliqué. Je ne peux pas confondre les deux. Voilà. C'est Le Monde et l'autre 8. Là, c'est autre chose. Oui, c'est le constat de Gomez. Il a vu l'importance du travail dans sa substance. C'est bien. Merci. Donc, le travail mérite d'être abordé par d'autres voies, d'autres versants que le négatif. La tendance à penser le travail sur labeur, sueur, douleur, etc. Non, pour la majorité, il est peut-être ça, on ne peut pas le gommer, bien entendu, mais il est aussi autre chose sur le versant positif. La souffrance, on ne peut pas la contester, ce n'est pas un ancien inspecteur du travail qui irait évidemment la contre. Quelques illustrations, quelques indices de cette souffrance, c'est l'absentéisme, c'est les maladies professionnelles, le turnover, les défauts de qualité, le burn-out et maintenant le bore-out, les maladies de l'ennui, la maladie de l'ennui. Bref, un tiers des interrogés disent perdre, paraît-il, 2 heures par jour dans ce que Grébert appelle les bullshit jobs, donc des métiers à la gomme, pour rester poli. Voilà, à la C. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais en même temps, il faut reconsidérer la dimension positive et positivante du travail. Et ici, je retrouve ce que déclarait François Chérec, l'ancien patron de la CFDT, trop tôt disparu, qui disait se garder de la tentation de mettre les choses au noir. n'ai-je pas, s'interrogeait-il, une vision de leur situation, celle des salariés, plus négative que ces salariés eux-mêmes. C'est une leçon de vie pour un syndicaliste comme moi, parfois enclin à noircir le tableau. C'est dans l'un de ses, son dernier ouvrage. Et un autre responsable cédétiste, à la même époque, le soulignait que dans notre projet, je cite, le travail n'est pas seulement envisagé sous son aspect contraint, de source de mal-être, de souffrance, nous voulons aussi le traiter dans sa dimension positive, au travers des satisfactions qu'il peut apporter. Et même discours aujourd'hui chez Laurent Berger, à propos d'une visite en entreprise, il déclare ceci. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé, mais alors, quels sont les problèmes ici? Et les gens m'ont rétorqué, mais pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait que des problèmes? Cet épisode m'a servi de leçon, continue-t-il. Voir le travail avant tout comme un problème, c'est en proposer une lecture biaisée. Mieux vaut l'aborder comme un outil d'émancipation et de reconnaissance. Il aurait pu ajouter, mieux vaut l'aborder aussi comme un outil d'émancipation. Donc, positivation du travail en France, un peu moins à l'étranger. Et pourtant, paradoxe, la France se situe au dernier rang des pays de l'OCDE du point de vue de la satisfaction au travail. Heureux, les Français sont heureux au travail, mais insatisfaits de ce qu'on leur propose. Nous faisons crédit au travail, mais sa réalité nous déçoit. Et justement, ce paradoxe, ce divorce, s'explique par le fait qu'au fond, il y a chez nous un fort attachement au travail, une forte valorisation du travail, qui au contact du terrain ne peut créer que de l'insatisfaction, de la déception. Et quand on compare avec la situation à l'étranger, on est moins attaché à l'étranger, mais plus satisfait de la réalité du travail. Tout simplement parce qu'on demande sans doute un peu moins, particulièrement dans les pays latins, à cette activité. Donc le travail, pourrait-on dire, est à prendre au sérieux, mais à condition de rester à sa juste place. Ce qui est le point de vue aujourd'hui dominant dans la génération jeune, dans la génération Y, je crois, comment ça se dit?
Y.
Et Z?
Z.
Ah, Z. Bon, voilà. Y et Z, les deux générations, je veux dire, les jeunes nés dans les décennies 80 et 90 ou 90 et 2000. Donc, dans ces conditions qui sont malgré tout d'assez forte valorisation, positivation du travail, on n'est pas étonné de découvrir qu'une majorité souhaite la diminution de sa part dans l'existence. On peut même dire qu'il ne constituerait qu'une priorité sondage que pour 12% d'entre eux. Donc, il est important, mais à condition de ne pas parasiter l'existence. Donc, de trouver sa juste place, le point d'équilibre dans l'existence. Voilà les leçons qu'on peut tirer des sondages. Ça, c'était plutôt pour la bonne nouvelle. La valeur travail donc, se porte pas mal. Bon. Et je vais en consacrer un petit livre à ce sujet que j'ai intitulé « Le retour en grâce du travail » sur cette remontée en puissance de la valeur travail. Dans le même temps, des mauvaises nouvelles. Mauvaises nouvelles, même si aujourd'hui le niveau du chômage est plutôt modéré, même si cette situation est à peu près provisoirement assurée, l'emploi est exposé à terme à une double crise. D'abord, une crise quantitative, à savoir une probabilité forte de fonte accélérée dans les temps à venir du fait de la vague numérique. Déjà en 2013, les économistes d'Oxford aux USA estimaient à 40-50% les emplois qui étaient directement menacés par les logiciels, par, disons, les algorithmes numériques. La vague d'automatisation, dira un économiste, Bruno Deboul, la vague d'automatisation, qui s'annonce, sera un véritable tsunami. Bon, tsunami dévastateur pour l'emploi. Et tout récemment, la banque Goldman Sachs vient d'évaluer à 300 millions le nombre des emplois susceptibles de disparaître à travers le monde, tout de même du fait de l'intelligence artificielle. Parmi les métiers les plus menacés, employés de banque et d'assurance, comptabilité, caissier des libres-services, journalistes et même avocats et certains mettent les médecins dans cette liste un peu sinistre. La question là, est de savoir si la théorie du déversement de Schumpeter, quand des emplois sont supprimés, détruits dans le primaire et pas dans le secondaire, du secondaire dans le tertiaire, est-ce que cette théorie va trouver lieu de s'appliquer, ce qui permettrait d'amortir le choc? Va-t-on passer de façon plus massive du tertiaire au quaternaire? Je veux dire, c'est pas certain, mais en même temps, les choses vont si vite qu'on ne sait pas véritablement ce que l'avenir nous réserve. À titre d'exemple, aucun des 10 métiers les plus recherchés en 2010, pour prendre un peu de recul, n'existait en 2003. Aucun. Ingénieur en intelligence artificielle, déjà. On en parlait moins, mais elle était déjà à l'œuvre. Analyste de données, spécialiste en cybersécurité, biotechnologiste, etc. Voilà des métiers qui sont véritablement d'avenir et dont on n'avait pas idée 10 ans auparavant. Donc, on peut espérer voir de nouveaux profils apparaître suite à cette inflexion du travail et de l'emploi. La deuxième crise n'est pas quantitative, mais c'est une crise plutôt qualitative, une crise de légitimité qu'a bien cerné récemment le magazine de la CFDT en avril, où on pouvait lire ceci: il y a eu comme une relativisation de la place du travail qui a perdu sa dimension sacrificielle. D'accord ? Le travail n'apparaît plus comme un élément central de l'existence. C'est vrai. Nombre de jeunes choisissent de prendre leur distance avec le monde du travail de leurs parents qui n'ont pas tenu les promesses de progrès social. Donc, on est là, dans la jeune génération, dans un rapport qui est assez aussi paradoxal. D'un côté, attachement à la valeur travail, des exigences que n'avaient pas les aînés en ce qui concerne sa qualité, et en même temps, relatif détachement, mise à distance, sur le mode, si vous voulez, je t'aime, moi non plus. C'est un peu ce que on peut percevoir de l'attitude des jeunes générations. Et cela se mesure, par exemple, au phénomène dit des démissions silencieuses, le quiet quitting. En premier trimestre 2022, on a dénombré 523 017 démissions en un seul trimestre. Donc, moyenne d'année, on pourrait dire 2 millions de démissions. Démissions, ça témoigne finalement d'un attachement à l'emploi, qui est plus faible que par le passé. On le quitte volontiers, et cela d'ailleurs à la faveur d'un marché du travail qui est particulièrement favorable en ce moment aux salariés. Ils peuvent espérer retrouver la liberté qu'ils avaient perdue par le passé. Voilà. Donc, on peut parler de nouvelles exigences vis-à-vis de l'emploi qui sont en lien avec une, je cite Dominique Méda, une immense attente dans le travail. Immense attente dans le travail. Immense attente vis-à-vis d'entreprise. Avec nécessité pour elle de répondre à l'attente d'une meilleure adéquation entre l'activité, son activité, et les exigences des jeunes qui arrivent sur le marché du travail en matière d'environnement, en matière d'éthique économique, lorsqu'il y a des activités à l'étranger, etc. Et on pourrait rajouter le souci, la volonté d'un meilleur compromis entre la vie privée et la vie professionnelle. Ce qui se voit aujourd'hui de façon assez manifeste un peu partout, mais tout ce que je trouve, me semble-t-il, le plus patent, c'est dans le cas des médecins. On a vu là un basculement très important en une génération pratiquement entre les médecins qui continuaient encore il y a 20 ans, disons, à se vouer sur un mode parfois sacrificiel à leur activité, et aujourd'hui des jeunes médecins qui disent nous sommes des travailleurs comme les autres, nous ferons notre travail, mais pas plus. Il n'y a pas de raison de se ruiner la vie personnelle, qui peut être même la santé, à exagérer dans les heures faites, comme par le passé, 60-70 heures par semaine. Voilà, c'est un changement, à mon sens, assez significatif. Et on voit aujourd'hui des étudiants qui sortent, des élèves qui sortent des écoles d'ingénieurs, par exemple, qui disent, bon, pas question d'aller chez Total, pas question d'aller dans des entreprises, évidemment Monsanto et Dolores, qui nous déçoivent sur le plan de la responsabilité sociétale. Voilà. De là, l'exigence aujourd'hui d'une meilleure, ce qu'on appelle QVT, c'est-à-dire qualité de vie au travail. Dans le sillage de l'accord interprofessionnel qui a été signé en juin 2013 et qui progressivement passe dans la pratique des entreprises. C'est un horizon, pourrait-on dire, pour les entreprises qui ont le souci de durée. Alors, dans ce contexte de profonde mutation, assez largement contradictoire, paradoxal, il s'agit de comprendre les enjeux de la révolution silencieuse du travail qui relance le débat sur sa place, son rôle dans l'existence. Et pour l'aborder, je vais m'intéresser d'abord à son aspect anthropologique. Pourquoi le travail reste-t-il si important? Pourquoi? D'où cela vient-il? Pourquoi sommes-nous toujours un peu l'amour dépendant? Ensuite, je m'intéresserai à l'aspect socio-technique sur les modalités du travail dans leur mutation Et puis à l'aspect juridique, où là aussi nous avons une députation tout à fait importante, avec en particulier ce qu'on pourrait résumer sous l'appellation le phénomène de l'ubérisation, qui en réalité est un phénomène faussement nouveau qu'on connaît depuis au moins une trentaine d'années. Voilà. Donc voilà les trois aspects que je vais évoquer, en commençant par la dimension anthropologique du travail. Et là, je parle de cette question, pourquoi cette labo-dépendance? Et là, en allant très vite, j'énonce les raisons, les explications probables. Première raison, elle est économico-sociale, et elle tombe sous le sens. Le travail est important, parce qu'il est encore le grand pourvoyeur des valeurs matérielles, etc. Disons de la richesse, même si elle est tout à fait inégalement répartie, j'y reviendrai. Le travail, c'est une rémunération. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas une explication suffisante. Si, en effet, on s'engage toujours dans le travail, c'est un peu par nécessité, certes. Mais quand on pose aux gens la question intéressante, si vous pouviez vous passer du travail, parce que vous avez gagné au loto, etc., que sais-je, vous avez eu un héritage de votre grand-mère inattendu, que feriez-vous? Eh bien, la moitié des gens disent « je continuerai à travailler ». La moitié. Alors, on dirait... Ça veut dire qu'il y a l'autre moitié qui ne continuerait plus. Mais il y a quand même dans cette hypothèse-là 15% d'indécis. Donc on peut dire qu'il y a 50% de « oui, je continuerai »,« non, je ne m'arrêterai pas », et puis « bon, voilà, je ne savent pas ». Donc cette première raison n'est pas suffisante pour véritablement expliquer les choses à elle seule. Il faut poursuivre l'investigation sur le terrain anthropologique, où le travail apparaît tout simplement comme un langage. C'est le langage qui permet à chacun d'exprimer une part de son être propre, de ses talents, comme on disait autrefois, à travers le déploiement de l'énergie physique, et de plus en plus aujourd'hui intellectuel, et on pourrait même dire moral, et peut-être même parfois spirituel. Dans les associations où il y a des salariés qui s'occupent des handicapés, etc., on peut dire que c'est un travail physique, intellectuel, mais aussi avec une dimension spirituelle tout à fait importante. Cette dimension anthropologique permet, c'est ce qui permet à chacun de se construire à travers le travail. Et si je pense à ce que écrivait Emmanuel Mounier, que vous m'excuserez de citer, mais vous avez dit, Jean-Michel, que je m'occupe de l'association des amis d'Emmanuel Mounier, il disait « Tout travaille à faire l'homme autant que la chose. » Tout travaille à faire l'homme autant que la chose. On dirait que c'est pas scoop. Marx avait dit la même chose, Hegel, etc. On pourrait remonter toute la filière des penseurs, du travail. Mais l'expression de soi, pour autant, n'est pas nécessairement assurée. L'expression de soi n'est pas nécessairement assurée dans le travail. Tout dépend, en somme, de la qualité de la tâche. Il ne suffit pas de dire le travail, ça construit, etc. Oui, mais le travail, ça détruit aussi. Et le travail construit beaucoup mieux dans certains cas que dans d'autres. Et là, il faut distinguer, pourrait-on dire, avec Anna Arendt, entre le travail, ce qu'elle appelle le travail, c'est-à-dire une activité qui est attaché à la contrainte biologique, en somme, qui fait que, bon, il faut construire des maisons, qu'il faut alimenter les supermarchés, etc., etc. Et l'œuvre, et dit-elle, évidemment, quand on est sur le terrain de l'œuvre, on peut dire qu'on a une capacité expressive qui est beaucoup plus importante que dans le cas du travail, où c'est l'inverse, on peut voir le potentiel étouffé et régressé de façon manifeste. Donc c'est une... Quand on s'avance sur ce terrain, il faut se garder de grandeur, simplement. Évidemment, il y a des travaux qui sont beaucoup plus enrichissants que les autres. Et on peut dire qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, la tendance, et je reviendrai dans un instant, la tendance est à la personnalisation du travail, c'est-à-dire au développement de la capacité pour chacun de s'investir dans le travail, un travail intellectuel, un travail relationnel qui est plus riche que par le passé. Et ce qui fait, je parlais à l'instant, je vous ai montré furtivement le bouquin fameux de Friedman, Où va le travail humain. Georges Friedman, le fondateur de la sociologie du travail en France, disait déjà, avec Simone Weil, la philosophe, disait déjà, il n'y aura pas de changement sérieux dans le travail sans un travail d'humanisation, c'est-à-dire sans une implication de chacun dans l'activité où il peut libérer, en somme, ses potentialités. La troisième raison d'attachement au travail, après cette raison anthropologique, le besoin d'expression, la troisième raison est, pourrait-on dire, sociétale. Et elle concerne la capacité de faire société. En allant très vite, c'est le travail qui constitue aujourd'hui encore le principal ciment de notre société. C'est par là que le tout maintient, à travers les conflits, à travers les tensions, une cohésion tout à fait étonnante. Durkheim l'avait déjà dit, bien vu, mais ça se vérifie tous les jours. Si bien que lorsque Dominique Béda dit « Le travail, c'est fini » dans son bouquin de 1985 ou 86, on lui dit, mais qu'est-ce que vous mettez à la place pour tenir la société? Et elle répondait, eh bien, il faut en revenir au modèle de la démocratie grecque, où effectivement, les citoyens, là, ne travaillaient pas, non seulement ils ne travaillaient pas, mais ils avaient interdiction de travailler pour se vouer véritablement à leur tâche de citoyen. Enfin, c'était plus facile dans une société où les deux tiers des habitants étaient faits d'ilotes et d'esclaves, tout simplement. Bon, mais ça justifiait justement l'esclavage au profit de l'aristocratie des citoyens. Donc voilà la réponse qu'elle faisait. Je dis, c'est vraiment faire fond de manière un peu hâtive et à mon sens un peu suicidaire sur la seule vertu. On ne travaille plus et donc on va se vouer à la vie collective, à la vie de la police, de la cité, pour une part peut-être. Mais je doute que ça occupe pour la plupart des gens une partie significative de l'existence. Et alors, s'il n'y a plus le travail, là, on ne sait pas vers où on irait. On ne sait pas. C'est l'une, d'une certaine façon, l'une des grandes inconnues du dossier. S'il n'y avait plus cette, encore une fois, ce ciment pour faire tenir ensemble, à travers les conflits, eh bien, on irait vers les probables cassures et les faiblures peut-être irréparables, en tout cas. sorte de dissémination, de décomposition du tissu social. Voilà. Et si le travail est aussi important du point de vue sociétal, c'est parce qu'il est un facteur, tout simplement et tout bêtement, de reconnaissance. Reconnaissance. Reconnaissance de soi-même dans un espace partagé, et en même temps reconnaissance d'autrui. C'est ce jeu de regard, en somme, dans l'espace d'activité, l'espace de travail, qui est permis par le travail. C'est aussi une demande de considération, reconnaissance, considération, puisque c'est par le travail, finalement, qu'on accède à l'espace public de citoyenneté. C'est par le travail qu'on devient, de façon substantielle, en somme, citoyen. Celui qui n'a pas la possibilité de travailler, on l'a vu pour les chômeurs, surtout dans les décennies passées. Aujourd'hui, Dieu merci, le regard sur les chômeurs et les chômeurs sur eux-mêmes a évolué dans le bon sens. Eh bien, le chômeur était quelqu'un qui se trouvait dans un statut d'invisibilité, de quasi-invisibilité, voilà, de flottement généralisé. Voilà. Et donc, voilà les trois raisons qui expliquent. Ça va ? Alors, je passerai au second point, les évolutions du travail quant à ses modalités. Des modalités. Et ici, je voudrais insister sur trois points. D'une part, sa personnalisation, son autonomisation, et ce que j'appelle d'un mot un peu pompeux, sa réticulation, c'est-à-dire sa mise en réseau. Le travail se met en réseau. Voilà. La personnalisation du travail recouvre ce fait tout simplement que, à la faveur de l'évolution vers une société de service, ce que Alain Touraine nomme dans les années 70-80 la société post-industrielle, c'est on va sortir de l'industrie. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est très largement sorti, puisque l'industrie, c'est à peu près 15% des emplois, alors que pour ce qui concerne les services, c'est 70% de l'activité. Et donc, on passe vers un travail qui est de plus en plus relationnel, qui implique, en somme, la personne du salarié de manière beaucoup plus intense que par le passé. Par le passé, le travail s'opérait à dominant dans un rapport à la matière, pourrait-on dire, c'est les métallurgistes, etc., la construction d'immeubles. Bon. Mais aujourd'hui, ça se joue dans la relation véritablement entre eux. Et donc, il y a là un effet de personnalisation qui constitue une véritable mutation anthropologique aussi. Mutation anthropologique qui est liée, disons, à la prise en compte du facteur humain dans l'acte du travail lui-même. Voilà. Avec une représentation du salarié qui n'apparaît plus seulement comme un corps, ce qui a été le cas dans le droit du travail, c'est manifeste jusque dans les années 70. Le droit du travail ne connaissait le salarié que comme un corps productif à protéger. Or, dans les années 80, on assiste à un véritable retournement, avec, pour commencer, au début des années 80, bien sûr, les lois Auroux, et en fin d'année 80, un texte qui apparaît assez technique, mais qui était extrêmement révélateur de l'inflexion en cours. Je veux parler de la directive cadre, directive européenne, de juin 89 qui porte reconnaissance du droit à la santé au travail. On dirait, ben, le droit à la santé, on s'en est occupé puisqu'il y avait des médecins du travail quand même partout dans les entreprises depuis 1945-46. Oui, oui, mais la nouveauté est que désormais, on ne parle plus de l'hygiène, de la sécurité concernant les corps, on parle de la santé en général, incluant la santé psychologique, le bien-être, etc., toutes les formes de mal-être correspondant. Donc il y a là véritablement un retournement. Et on commence à dire, y compris en matière de sécurité, ce qui était absolument inenvisageable jusqu'alors, le salarié doit se préoccuper de sa sécurité et de celle de ses compagnons de travail. C'est quoi ça? Je me souviens qu'à l'inspection du travail, on tombait des nues. On disait, mais jusqu'à présent, on nous a dit qu'il fallait faire contre le salarié, tout faire pour éviter que le salarié ne se blesse dans son travail. Et il n'était pas question de lui reconnaître la moindre responsabilité. Il fallait le protéger à tout prix. Même s'il voulait se jeter dans un broyeur, ce qu'on a vu ça et là, eh bien, il fallait que ce soit, que ce fût impossible. Et voilà qu'on nous dit maintenant responsabilité. C'est un problème, on n'y comprend plus rien. Et je vous assure que lorsqu'on a commencé à parler de charge mentale de travail, ceux qui participaient de ce mouvement, c'était la grande déstabilisation dans le monde patronal. Mais c'est quoi la charge mentale? Non sans raison, parfois. Les employeurs pouvaient dire, si un salarié rentre perturbé un lundi matin dans l'entreprise, est-ce que c'est véritablement le fait du travail ou bien le fait de la vie privée, etc. Alors la charge mentale, elle tient à quoi? Comment analyser objectivement cette question-là? Et le ministère du Travail, à l'époque, tenait un discours à peu près similaire. Pour l'illustrer, je rappellerai que pour comprendre cette notion de charge mentale, j'étais inspecteur à l'époque et j'avais demandé à organiser une journée où j'ai invité celui qui a, disons, forgé ce concept, à savoir Christophe Dejour, un psychiatre spécialiste du travail, de venir nous expliquer à Quimper ce dont il s'agit. Et il était accompagné de François Ewald, qui venait de consacrer un ouvrage tout à fait important à l'État-providence et à l'évolution du régime de l'accidentalité. Bon, très bien, on organise ça, il y a eu 100 personnes, tous les médecins du travail étaient là, les services de l'OPPBTP, de la sécurité sociale, l'inspection du travail des collègues étaient là, mais on m'a dit ensuite, mais c'est quoi ça le GOF? Pourquoi avoir organisé un truc pareil sur la charge mentale de travail? Ça ne veut rien dire. Il y avait donc une sorte de scepticisme et de résistance à intégrer cette nouvelle représentation du salarié et qui a un peu entravé tout de même le développement de ce mouvement de personnalisation et d'accès au statut d'acteur. On ne pouvait pas dire d'un côté, loi au roux, vous êtes des acteurs d'entreprise et c'est plus à titre collectif, c'est à titre individuel, loi du 4 août 1982, à titre individuel. On ne pouvait pas dire vous êtes des acteurs et puis de l'autre côté, considérer les salariés comme des gamins, des enfants qu'il faut absolument protéger de tout risque, de toute déviation comportementale. Voilà. Donc, un changement tout à fait important, personnalisation. Le salarié, donc, désormais, est, dans sa personne intégrale, impliqué dans le travail. Trois conséquences. D'abord, le renforcement du désir de s'accomplir dans le travail. tant que le salarié était dans un rôle. C'était stressant de se mettre sur sa machine, etc. Mais on avait fini par le convaincre que, bon, ça irait avec un petit peu d'effort, un petit peu de sens du sacrifice, que ça irait. C'est plus possible, là. Le salarié qui était dans le rôle avait cette chance de pouvoir en sortir lorsque le travail était fini. Il enlevait son bleu travail ou sa blouse blanche d'agent de maîtrise, etc. Il l'accrochait au clou, c'était fini. Or voilà que ce salarié aspire à être impliqué dans toutes ces harmoniques dans le travail. Et alors, deuxième conséquence, comment faire le départ entre le temps du travail et le temps du non-travail? Et on a vu dans toute la décennie, disons, de façon manifeste, 90-2000-2010, la frontière entre le travail et la vie privée ou la vie sociale, cette frontière s'est complètement effilochée. Elle est devenue transparente avec des effets d'osmose dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens, c'était la colonisation de la vie privée par le travail qu'on rapporte à la maison avec l'ordi sous le bras et avec le portable, etc. Et dans l'autre sens, il y a ce salarié qui apporte son portable dans l'entreprise et qui continue à gérer peu ou prou sa vie privée dans l'espace d'entreprise. Et j'avais dit, le jour où la Cour de cassation, sous certaines conditions, avait tenu que la possibilité pour le salarié de consulter son courtier devait être considérée comme légitime. J'avais dit à ce moment-là, mais si le salarié peut importer sa vie privée dans l'espace professionnel, il n'y a pas de raison que par un effet de symétrie, eh bien, l'espace professionnel ne gagne pas l'espace privé. Et c'est assez largement ce qui s'est passé, je dois dire. Voilà. Et aujourd'hui, on en est avec le droit à la déconnexion qui est reconnu par le Code du travail, qui est reconnu surtout par des accords d'entreprise et de branche. La déconnexion, c'est ce qui permet de remettre les choses à leur juste place. Le travail, c'est le travail. Le non-travail doit être protégé. Voilà. La troisième conséquence de cette personnalisation, c'est évidemment la tendance à la décomposition des collectifs. Le collectif de travail se déstructure, s'effiloche, en même temps que le sentiment d'appartenance à l'entreprise décline. Faute justement de cette médiation par le collectif. On nous dit que beaucoup de salariés souffrent de solitude, du travail isolé. Et la dernière, aujourd'hui, la figure du télétravail, qui pose des problèmes, qui soulève des problèmes assez sérieux, malgré son allure tout à fait affriolante. Et beaucoup de salariés sont contents d'entrer dans cette formule, mais qui n'a pas que des avantages. Les salariés, on les voit rechercher de nouvelles formes de collectivisation du travail ou de communalisation du travail à travers le coworking, le co-living, etc. Tout un ensemble, etc. La question qui est là posée aujourd'hui, c'est la question même que se pose le courant socialiste au moins depuis le début du XIXe siècle. Comment réussir à faire du collectif avec des individus, des personnes reconnues en plénitude. Comment faire tenir, autrement dit, de manière cohérente, un ensemble qui, naturellement et structurellement, est émietté, qui est épars. Et j'ai pris conscience de cette problématique-là à l'occasion d'une visite dans une entreprise du Sud-Finistère qui s'appelle Quaker, que vous connaissez bien les uns les autres, si vous avez des chiens, des chats, les Quakers, je pense que la marque existe toujours, enfin, il y a des animaux. Voilà. Et donc, monsieur, si je peux avoir les images Quaker, la première, s'il vous plaît. Voilà un petit mémoire d'une vingtaine de pages qui est remis par une équipe sur le thème absolument passionnant, comment éviter les mélanges au changement de formule entre les aliments pour chiens et les aliments pour chats. Ce sont les mêmes machines et évidemment on dit mais on ne peut pas mélanger, on pourrait imaginer peut-être quelques boîtes avec du mix, mais ce n'est pas possible. Bon, donc on demande aux salariés de travailler le sujet et ils vont faire le travail avec des résultats assez saisissants, puisque à l'époque on estimait que sur chaque machine annuelle leur suggestion, leur recommandation devrait permettre de faire 10 000 francs, on est encore dans ces années-là, d'économie. 10 000 francs par machine, alors qu'il y avait une vingtaine de machines, ça représentait quelque chose de sérieux. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est ça qu'ils aient senti le besoin légitime de mettre leur photo et leur nom sur le mémoire. Étonnant. Et voilà la figure d'un collectif nouveau qui est un collectif personnalisé, très personnalisé. Les noms sont là. Doiré, Hervé, Pembrode, etc. D'une part. Et d'autre part, un collectif instable, puisqu'il est voué à disparaître une fois le problème traité. Donc, on a une sorte de collectif précaire. Un collectif non permanent. C'était une nouvelle figure et qui va trouver sa confirmation, l'autre s'il vous plaît, dans cette page du Monde. Il y en avait 15 dans un même numéro, 15 pages de cette académie. Une page qui a été commandée par Air France. C'était dans une période de grève extrêmement puissante dans la compagnie. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le collectif Air France sous la forme de photos d'identité. C'est-à-dire un collectif qui peut être lu, d'une certaine façon, jusqu'à son expression la plus élémentaire, sa constitution la plus élémentaire, jusqu'à l'atome, pourrait-on dire, son atome, ses atomes. Voilà. Alors qu'avant, 10 ans avant, je ne serais pas venu à l'idée de représenter un collectif comme ça. Le collectif, c'était naturellement les syndicats, peut-être les coordinations, mais pas des collectifs hyper personnalisés comme celui-là. Ça a marqué, et c'est la conséquence de la personnalisation de l'activité. Chacun, en l'occurrence, accepte ou revendique d'être reconnu comme tel. Reconnu comme tel dans l'activité et dans l'entreprise. Le second mouvement, personnalisation, autonomisation, là je ne vais pas trop insister, sinon pour revenir à ce rêve de l'après-guerre, des années 1945, où apparaît avec force le thème de la civilisation du travail. Civilisation du travail dans la revue Esprit, que je connais bien, mais aussi même dans la théologie à l'époque, avec le travail du père Chenu, Marie-Dominique Chenu, intitulé « Théologie du travail ». Et Chenu dit, mais il faut repenser le travail pour en faire un vecteur d'émancipation, et pas simplement une peine, un labeur, un sacrifice, que sais-je. Bon, très bien. Mais ce que disent les tenants de la civilisation du travail, c'est qu'il n'y aura pas de libération du travail sans accès de chacun à un minimum d'autonomie. Personnalisation, autonomisation, les deux sont emboîtés, doivent aller de pair. Mais voilà une évolution qui a son pendant plutôt sombre, du moins négatif, puisque cette autonomisation peut se révéler coûteuse pour les salariés qui en découvrent le prix. Et le prix de l'autonomisation, c'est une forme de précarisation morale, psycho-morale, liée au fait que on ne sait plus exactement ce qu'il faut faire, on sait simplement connaît les résultats de l'activité sous la forme d'objectifs qui sont fixés semaine après semaine, mois après mois, dans une gestion par objectif. Mais pour le reste, on vous donne des objectifs, à vous de jouer. Et là, nombre de salariés se sont trouvés déstabilisés, littéralement, parce que mais qu'est-ce qui me donnera le temps du travail, la certitude ou la quasi-certitude que je suis sur les rails et dans les clous? Personne. La seule garantie, c'est de réussir à atteindre les objectifs fixés. C'est tout. Pour le reste, faites comme vous voulez. Ce n'est pas notre problème. Autrement dit, l'autonomie, c'est payer d'une forme de déstabilisation. On dirait que la subordination, c'était pénible, mais la subordination, c'était au moins une sorte de garantie permanente. À la fin de la journée, on savait, puisqu'on n'avait pas eu de reproche, que ça s'était bien passé. Or là, c'est la bouteille à l'encre. On verra. On verra. Et c'est le patron de la CNAD, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui déclarait récemment au Monde, on ne se base plus sur le temps et la présence, mais sur les objectifs, en privilégiant la responsabilité. Il n'y a pas le choix, d'ailleurs, de toute façon, avec le télétravail. Si un salarié travaille chez lui 3 jours par semaine, il est structurellement, statutairement, autonome. Et donc on ne peut s'en remettre qu'au résultat. Alors à la CNAD, on va calculer le nombre de dossiers qu'il traite par jour. On va calculer peut-être, c'est très possible, la vitesse de la souris, la distance parcourue par la souris, c'est très possible. Alors il y a peut-être des appareils à déplacement souris qui en somme permanent. Mais ça existe, c'est ce qu'on appelle le management algorithmique aujourd'hui. Alors d'un côté on dit vous êtes autonome, mais attendez, pas totalement quand même. Big Brother n'est plus là sur votre épaule, mais on l'a mis à distance et on lui a mis un tel objectif. Voilà. Donc c'est des situations qui ne manquent pas, d'être stressantes et qui sont de toute façon le prix à payer de cette autonomie. et qui peut être d'ailleurs aggravé, le stress peut être aggravé, bon, par des injonctions contradictoires. On dit, écoutez, bon, faites au mieux, mais enfin, on vous demande quand même, comme les caissières du supermarché, qui ne sont pas des parents comptes d'autonomie, évidemment. Les caissières, on leur demande smile, avenance, sympathie pour le cher client, mais en même temps, pas plus de 2 secondes par article. Alors, on gère ça comment? C'est le double bind de Bateson, de l'école de Palo Alto, double bind, la maman qui dit à son enfant, pas comme je t'aime, mon chéri, et qui, dans le mouvement même où elle attire à lui, le repousse. Et l'enfant sent bien qu'il y a un malaise et une contradiction dans son comportement. Voilà. Alors, la conséquence de tout ça, conséquence de cette autonomisation, je la vois au niveau des attentes des salariés. Des attentes pour lui qu'on est autonome. Ben, reconnaissez un peu mieux que par le passé notre activité, notre travail, en tant que personne impliquée. Reconnaissez notre singularité, avec évidemment toujours ce questionnement sur la compétence, la bonne compétence. Est-ce que je suis véritablement à la hauteur de la tâche qu'on me demande? Et répondez-moi, s'il vous plaît. Et la réponse peut venir, mais c'est parfois et souvent trop tard, les objectifs n'ont pas été atteints, pas de chance. Mauvaise pioche. Deuxième conséquence, quant au mode de travail, qui est donc, je vous l'ai dit, de plus en plus par objectif avec les nouvelles technologies de contrôle, et ici, dans un bouquin que je vous recommande, Casini, Antonio Casini, un italien, le bouquin s'intitule En attendant les robots, Casini le dit à propos des digital labors, des travailleurs du digital, des travailleurs du numérique. Ils sont soumis, dit-il, à une subordination à la seconde près, via un contrôle permanent et en temps réel, grâce aux techniques d'information et de communication, d'autant plus efficaces qu'elles sont invisibles et automatisées, une sorte de sursubordination avec des obligations de résultat. Voilà, on leur demande. On demande d'être efficace. Alors, ça renvoie à tout le modèle qui aujourd'hui, d'ailleurs, est développé par les plateformes numériques, Amazon et les autres. Amazon emploie 500 000 salariés uniquement à permettre à son réseau numérique de fonctionner. Et comment ça? Simplement en recrutant des petites mains qui ont pour charge d'exécuter des travaux que la machine ne peut pas encore assumer, même avec l'intelligence artificielle. Lire des photos, par exemple, décrypter des textes, transcrire des textes, etc. Et on a aujourd'hui, chez Amazon, 500 000 personnes qui, à travers le monde, travaillent à la mise au point des programmes informatiques et du système informatique. 500 000 personnes qui sont payées à la micro-tâche, c'est-à-dire des tâches qui peuvent prendre 10 secondes, 15 secondes, un peu plus, qui sont payées 10 centimes d'euros, etc. Et il faut articuler les tâches dans une journée pour atteindre une rémunération à peu près satisfaisante. Donc, voilà l'une des des conséquences de cette autonomisation qui n'est pas absolument rose sous tout rapport et qui peut plonger les salariés dans une expectative en somme quant à leur travail et la manière dont il est perçu. Troisième conséquence, la conséquence évidemment, c'est que puisque les salariés sont autonomes, pourquoi les maintenir dans un statut de salarié? Après tout, ils seraient aussi bien s'ils étaient auto-entrepreneurs, s'ils étaient artisans. Ben oui, ce serait beaucoup bien mieux. Mais on s'engagerait à travailler avec eux. Pas de doute là-dessus. Simplement, au lieu d'avoir ce contrat de travail là, un peu honteux, avec sa subordination, etc., ils auraient acquis l'indépendance. Formidable. Je vais vous raconter une petite histoire tout de suite, je vais vous en après. C'est Uber, c'est le modèle Uber. C'est le modèle Deliveroo, c'est le modèle de quantité de plateformes de services qui sont censés mettre en connexion, en somme, la demande et l'offre de services, la demande et l'offre de ceci et de cela, de produits, mais qui en réalité, à la charnière, ont pris la main sur la relation et là où c'était prévu juste une mise en contact, eh bien, il y a mise dans la poche. C'est-à-dire qu'un profit est tiré de cette mise en relation. Alors, mais qui sont-ils ces gens-là? Est-ce qu'ils sont encore salariés? Est-ce qu'on avait intérêt à agir? Donc, c'est Uber. Mais il y a 30 ans, il y a 40 ans, plus de 41 ans, en 1982, je consacrais un papier dans Le Monde intitulé, à ce phénomène, intitulé la montée en puissance des artisans salariés. Les artisans salariés, qu'est-ce que c'est que cette chimère, cette espèce de monstre juridique, artisan, salarié. Enfin, il est artisan, il est salarié, il peut battre de la foi. Mais si, il suffit d'avoir une apparence artisan, une réalité salariée. Le travail comme un salarié. Je passe sur un chantier à Badalec, dans mon secteur de l'instruction, et je vois des monteurs de charpente métallique qui cavalent sur les charpentes sans aucune protection. Et dessous, une dalle de ciment. S'ils tombent, ils sont là à peu près 8-10 mètres de hauteur, c'est la formation. Alors, je m'arrête, je n'avais pas prévu d'être là, mais enfin là, c'était non-assistance à personne en danger, si je n'avais pas fait. Je les invite à descendre prudemment. Ils viennent. Et alors, je dis, écoutez, vous travaillez sans filet, sans harnais, c'est un danger majeur de vie ou de mort. Et alors, l'un d'eux me dit, ah oui, monsieur l'inspecteur, vous savez, il sort sa carte d'artisan. Nous sommes artisans. Autrement dit, vous êtes incompétent, allez voir ailleurs, c'est pas votre problème, monsieur l'inspecteur. Nous ne dépendons plus de vous. Si nous étions salariés, oui, mais nous sommes devenus artisans. Bon, bah, je dis, écoutez, si vous voulez vous tuer à votre compte, c'est votre problème. Que voulez-vous que j'y fasse? Et alors, à ce moment-là, l'un d'eux qui est un peu troublé quand même par le tour de la conversation, qui est tout à fait civil, et qui réalise que c'est effectivement un argument un peu stupide, me dit, bah, écoutez, si vous voulez en discuter, on va appeler le chef d'équipe. Chef d'équipe d'artisan. Ça venait de sortir. Franchement, c'était un peu comme si j'avais découvert une nouvelle tribu en Amazonie, j'avais jamais vu ça. Parce qu'ils étaient tous artisans. Alors j'aurais demandé de raconter leur histoire. Comment êtes-vous devenu la cire? On était tous salariés dans la même entreprise. Et un jour, l'employeur nous a dit, bah, écoutez, les gars, ça serait quand même bien que vous deveniez indépendant, que vous preniez votre carte d'artisan à la chambre des métiers. Et là, vous avez découvert le bonheur parfait. Mais je vous rassure, je vous donnerai du travail en permanence. Vous n'aurez même pas à rechercher. C'est moi qui m'occupe de tout. Du travail, du contrôle du travail, de tout. Mais vous serez libre. Là, on voit que c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Mais oui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors, je mets un PV, procès verbal, pour infraction au code du travail, en commençant dans un rapport d'une dizaine de pages, par dire, attendez, monsieur le juge en correctionnel, avant de vous prononcer là-dessus, il y a la question préjudicielle du statut de ces gens-là. Et j'argumente en disant, voilà, à mon sens, il ne fait pas de doute, que nous avons là affaire à des salariés dissimulés, déguisés en artisans, pour se soustraire aux contraintes du code du travail, des conventions collectives, presque tout le droit du travail. Bon, l'affaire vient à l'audience quelques mois plus tard, et je vois débarquer dans la salle mon équipe de quatre quatuors accompagnés de leur ancien employeur. Et ils viennent dire en substance, mais non, mais on est passé très librement de notre statut de salarié dans le bonheur intégral au statut d'artisan. Qu'est-ce que l'inspecteur du travail a compris? Pourquoi il vous cherche des coups dans la tête? Il n'y a pas de sujet. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le chef d'entreprise, évidemment, opine, confirme. Bref, toute ma construction s'effondre. Et il prouve par là à quel point le statut de salarié dans la subordination est infiniment plus protecteur que le faux statut d'indépendant dans la soumission, dans la subordination à l'ordre total. Parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé, on a dit, écoutez les gars, si vous faites des imbéciles, je pense que les mots étaient un peu plus calibrés et plus percutants, si vous faites des imbéciles, vous n'aurez plus de boulot. Je vous exclue du champ et vous irez voir ailleurs. Bon. Alors, très bien, je fais le papier dans le monde et je dis, cette affaire ne peut se terminer que par des accidents mortels, puisqu'ils ne prennent aucune protection. Et 6 mois, un an plus tard, coup de fil du commissariat de police de Concarneau, vous pouvez vous dire, un salarié vient de se tuer sur le point P de machin, etc., en construction. Et c'est qui? Ah ben, c'est des gens qui travaillent pour l'entreprise Guégan, etc. Ils montent des charpentes, et je dis d'accord. Et voilà, effectivement, le salarié était mort, et là, j'ai pu avoir le contact avec l'épouse, qui m'a dit, s'il vous plaît, faites quelque chose, on s'est fait, on s'en est rendu compte assez vite, on s'est fait gruger, littéralement. On nous avait promis bons et merveilles, on s'est rendu compte que pour avoir la rémunération antérieure, il nous fallait, ton mari, travailler au moins 10 heures de plus par semaine, etc. Et puis au bout de la première année, alors que la première année, on avait des exonérations, etc., de cotisations sociales, on a eu plein pot, alors on a été littéralement noyé. Eh oui, elle a témoigné, en effet, trop tard, ils ont été condamnés. L'affaire est allée jusqu'à la Cour de cassation, champ criminel, et en 1985, la Cour de cassation requalifiait, ou plutôt approuvait la Cour d'appel de Rennes d'avoir requalifié les et considérer qu'un contrat commercial qui était affiché recouvrait en réalité un vrai contrat de travail, une situation de salarié. Voilà. Alors je voulais vous raconter cette histoire assez en détail parce qu'au fond, on s'aperçoit là que que ce qu'on vit aujourd'hui était déjà en Gésine depuis au moins 40 ou 50 ans. Et on pourrait remonter plus loin, puisque ça revient au retour en force du tâcheronat, des tâcherons. Il y a des gens qui sont payés à la tâche, sur des contrats très courts, etc., sans guère de protection, et c'est une tendance assez générale. Voilà. Alors, j'ai déjà, comme ça, entamé le troisième point, qui est relatif au statut juridique, et qui devait évoquer le cadre de la prestation. C'est fait, c'est un cadre, le cadre du salariat, qui peut se révéler, ou du travail indépendant, qui peut se révéler parfaitement factice. Et donc la Cour a été amenée à infléchir la définition qu'elle donne du contrat de travail. Avant, le contrat de travail, c'était subordination économique, subordination juridique, repérer un certain nombre d'indices. Voilà. Parce que dans le cas qui m'intéresse, voyez-vous, l'employeur n'avait pas été suffisamment conséquent. Il avait laissé ses camions à la disposition de ses anciens salariés. C'était un indice quand même assez puissant. Il suffisait de prendre des photos. Il passait toutes les semaines, ou ses contremaîtres passaient toutes les semaines, vérifier l'avancement du travail. Et là, on pouvait photographier les choses aussi, etc. etc. Donc, il y avait là nécessité pour la Cour de cassation de repenser la subordination, précisément. Et elle en est venue à dire, à propos des chauffeurs Uber en particulier, qui sont assez nombreux aujourd'hui à demander la requalification, elle en est venue à dire que ce qui caractérise finalement la subordination, c'est l'intégration à un service organisé. L'intégration. Ce qui était autrefois un indice devient aujourd'hui pratiquement le critère principal. Ils sont intégrés à un service organisé, service de conduite, de location, pas de location de voiture, mais de taxi, etc., avec toutes ces normes qui concernent la prise en charge, qui concernent le mode d'accueil, qui concernent évidemment la rémunération, qui concernent le temps passé, enfin bref, tout un système dans lequel chacun doit se fondre, finalement. Et en conséquence, eh bien, a considéré que les contrats devaient être requalifiés. Ça, c'est un aspect du débat autour du statut juridique du salarié. Le second aspect concerne le partage aujourd'hui de la valeur. Le partage de la valeur produite. Et évidemment, le retour de l'inflation a donné une nouvelle actualité à cette question qui était permanente, mais qui s'est trouvée arrivée. Et dans l'enquête par mon travail de la CFDT en 2013, une enquête extrêmement large, 200 000 interrogés, etc. Dans cette enquête, 77% des salariés se disent satisfaits de leur travail, mais seulement 45% satisfaits de leur rémunération. Et ils ont le sentiment, plus accusé en France, que le travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est intéressant de voir, de faire des comparaisons entre la France, l'Allemagne et l'Italie, par exemple, et on voit qu'il y a, entre notre pays et les autres, un écart de 10%. Il y a 10% de plus d'Allemands à considérer que leur rémunération est satisfaisante. Donc ils obtiennent juste reconnaissance de leur contribution. Ça, c'est un aspect du problème, mais l'autre aspect concerne évidemment les dissymétries de rémunération dans une même entreprise, illustrées de dans les grandes entreprises où le patron peut avoir un salaire, une rémunération, tout confondu, etc., une rémunération qui équivaut à 400-500 fois le SMIC. 400-500 fois le SMIC. Stellantis Tavares, le patron de Tavares, perçoit aujourd'hui 23,5 millions d'euros annuels. Je précise quand même annuels. Annuels. Vous voyez, c'est des sommes absolument renversantes, sidérales. Oui, alors bon, on est fondé à dire, est-ce que véritablement M. Tavares vaut 500 fois plus que le pauvre salarié qui, nous, chez nous, est au SMIC, ou un peu plus que le SMIC. Chez Stellantis, c'est un peu chaud, Citroën, on est sans doute un peu plus là-bas. Est-ce qu'il vaut 500 fois plus? Il y a là un problème d'inéquité, un problème d'équité. Voilà. C'est donc toute la question de la répartition de la richesse qui est posée. Sur fond, quand même, de divorce entre l'évolution de la productivité et l'évolution des salaires. De 1990 à 2019, 90-2019, la productivité en France a augmenté de 49%. Et les salaires de 23%. On dit, tiens, alors où sont allés les gains de productivité? À qui? C'est une question. Alors, on peut noter qu'aujourd'hui, on travaille pas mal dans les entreprises sur la thématique de l'intéressement, de la participation, qui représente quelque chose de significatif quand même, puisqu'elle est, en ce qui concerne la participation, en moyenne de 1 400 € par an et de 1 900 € pour l'intéressement. 1 900 € pour l'intéressement. Ce qui fait quasiment, pour les salariés qui sont à la base, l'équivalent d'un 13e ou un 14e mois. Voilà. Pour un total qui représentait l'an dernier 16 milliards 200 millions d'euros, distribués en participation. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Et là, on retrouve l'aspiration de Gaulle quand il parlait de la participation, dont cet aspect constituait simplement un volet. Mais De Gaulle avait en tête une participation plus large à la vie d'entreprise. Et c'est toute la question, et je terminerai par là, de la co-détermination. Comment associer les salariés véritablement à la décision de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en ce moment, puisque les comités socio-économiques, les anciens comités d'entreprise, ces comités n'ont de voix consultative sauf en matière d'activité sociale et culturelle. Ils n'ont pas la décision, ils ne participent même pas à la décision. Et dans l'enquête parents travail que j'évoquais à l'instant, 72% des salariés réclament la possibilité de participer à la décision dans l'entreprise. C'est le cas également de grands patrons, on peut dire éclairés. C'est le cas de BFA, Gallois, Louis Gallois, Père Levade, Louis Schweitzer, etc., d'anciens patrons de Renault. Et bien sûr, les syndicats sont sur cette ligne, aussi bien Sophie Guinet, la nouvelle patronne de la CGT, qui a pris position sur le sujet, que la CFDT, Berger, déclarant dans le petit livre qui est là d'ailleurs sur la table, il est logique d'associer les travailleurs à la prise de décision, de leur donner un pouvoir sur la situation qu'ils vivent. C'est toute la thématique de la co-détermination, c'est-à-dire de l'élargissement de la présence salariée dans les conseils d'administration. Au-delà de la loi Rebsamen de 2013, la CFDT préconise de porter la représentation à 33% dans les entreprises de plus de 1 000 salariés et à 50% dans les entreprises de plus de 5000 salariés. 50%, ça voudrait dire que comme en Allemagne, dans le secteur en particulier du charbon et de l'acier, les représentants des salariés seraient en posture décisionnaire. Et ça serait un changement tout à fait considérable. On n'est pas nécessairement très enthousiaste du côté patronal à cette idée. On veut bien reconnaître les droits du travail, mais quand même, il faut savoir s'arrêter à temps. Voilà. Alors, la seconde modalité d'association, ça pourrait être, dans l'esprit de la loi européenne, ce pourrait être une négociation annuelle obligatoire. Négociation annuelle obligatoire avec obligation de résultat sur l'organisation de l'entreprise. L'organisation. Pas simplement le fonctionnement comme le faisait le comité d'entreprise, mais sur la pensée de la structure de l'entreprise. Voilà. C'est une suggestion également de Laurent Berger. Voilà. Alors je m'aperçois qu'il y a des sujets qui n'est pas demandés, qu'on pourra évoquer dans la discussion, si vous voulez, tels que la durée du travail, etc. On y viendra. Je conclurai simplement en empruntant à Laurent Berger sa conclusion. Il suffirait de peu pour que le travail redevienne, ce qu'il devrait être. Un vecteur d'émancipation, de transformation, un levier agissant sur la société tout entière. C'est optimiste, mais pas exagéré. Merci.
Bonsoir, merci pour votre intervention. Je voudrais évoquer le glissement du travail social et les métiers du lien. De plus en plus, on a vu arriver une génération de, par exemple, de travailleurs sociaux où il y a un glissement où les charges administratives sont de plus en plus importantes au détriment du lien. C'est-à-dire que la conception qu'on a eue du travail social a beaucoup évolué dans le sens où on était des professions qui étaient reconnues comme quelque chose de valorisant, parce que justement il y avait ce lien social. De plus en plus, dû, et vous l'avez évoqué, au travail à domicile, les travailleurs sociaux maintenant ont été investis de nouvelles charges qui sont maintenant, on ne dit plus un être humain, on dit un dossier. C'est-à-dire qu'on va nous donner un certain nombre de dossiers. On ne parle plus bien sûr de personnes, on parle de dossiers. Et surtout, on augmente les charges administratives. C'est-à-dire que, bon, on le sait très bien en France, hein, cet empilement de dossiers, on se demande à quoi on est surchargé de bilans, de rendre compte, d'avoir des écrits, voilà. Et on se demande toute cette paperasserie, excusez-moi du terme, à quoi c'est utile, pourquoi, sinon que de nous laisser entendre qu'on est valorisé alors qu'on est des tâcherons, comme vous l'avez évoqué. Et je voudrais évoquer aussi la maltraitance dans les maisons de retraite, les EHPAD, pardon. Je peux témoigner qu'un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces établissements, là aussi, On a 5 minutes pour s'occuper d'une personne âgée, par exemple. Ce qui fait que, eh bien, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, sinon de mettre toute la journée la personne âgée devant la fenêtre. Bien souvent, elle garde sa chemise de nuit ou son pyjama. Et donc, parce qu'il n'y a pas le temps, hein, parce que toutes les 10 minutes, il faut avoir vu une autre personne, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. Et ça, on le sait très bien, ça conduit également à la maltraitance. Voilà. Donc, vous, le scandale, vous l'avez entendu, bien sûr. Voilà. Ouais. J'arrête là, mais je vais témoigner de toutes ces problématiques autour du travail.
Derrière vos remarques, madame, qui sont très importantes, je discerne toute la question du travail bien fait. Est-ce qu'on peut encore avoir la possibilité de bien réaliser son travail? Et aujourd'hui, la frustration des salariés, le mal-être de certains salariés vient très largement de là, et non plus le sentiment de réaliser leur travail convenablement. Là, pour des raisons qui sont peut-être données pour légitimes en ce qui concerne les travailleurs sociaux, comme pour les médecins se plaignent exactement de la même chose, on a une charge administrative qui est devenue écrasante, etc. Mais c'est une entrave indubitable. Et je suis très frappé de voir revenir en force ce thème qui paraît très daté, hein, il paraît mal un peu archaïque, le travail bien fait. Le travail qui permet, pour reprendre des expressions elles très datées, hein, la joie dans le travail. Mais enfin, quand on dit la joie dans le travail, le bien-être dans le travail. Être bien dans sa tête à raison du travail qu'on accomplit. Alors aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. Par les faits de quoi? Par les faits en particulier d'une temporalité qui devient absolument harassante. C'est-à-dire qu'il faut courir après les secondes, courir, etc. Et ça use littéralement les salariés. On est dans un modèle qui a été présenté par... c'est le bouquin qui a eu le prix Le Monde, d'ailleurs, le modèle de la hâte. Le modèle de la hâte, ben oui. Et les salariés leur demandent de faire toujours plus vite, etc. Il faut faire en même temps plus de tâches. Ce qui est peut-être l'un des effets pervers de la réduction du temps de travail. Je la remets en question, bien entendu, j'ai même écrit assez souvent dans l'Ouest de France sur le sujet, mais il faut reconnaître que en diminuant le travail de 4 heures d'un seul coup avec compensation intégrale, forcément, on a fait augmenter le souci de productivité et donc la tension, l'intensité du travail a dû augmenter. La question du travail bien fait, c'est vraiment l'un des thèmes de réflexion et d'action importants. Ouais. Travail bien fait. On pense là, bien sûr, avec des images aussi archaïsantes, à Peggy, l'image de sa mère, empailleuse de chaise à Orléans, et il a un texte très beau où il montre à quel point elle s'investissait dans son travail comme quelque chose de beau. De beau. Et je vous raconterai une petite histoire, un témoignage de Daniel Linard, l'une des meilleures sociologues du travail, qui passe dans une salaison, un abattoir salaison. Et elle constate que dans l'atelier le plus sordide qui soit, vous savez, c'est dire la boyauderie, on prépare donc les boyaux pour les tribes, etc., etc. Dans la boyauderie, au moment des changements d'équipe, et particulièrement lorsque des hommes succèdent à des femmes, où des femmes succèdent à des hommes, quand ce sont des femmes qui succèdent, elles jettent tout le travail laissé en cours à la poubelle. Elle dit, mais pourquoi? Pourquoi acheter ce travail, etc. Eh bien, disent-elles, parce que le travail n'est pas bien fait par les hommes. Il n'est pas bien fait. Étonnant, hein? Étonnant. Mais c'est comme quoi, à propos du travail, franchement, le plus astreignant et peut-être même assez largement dégradant, quand je disais tout à l'heure, que la logique de l'œuvre peut se greffer sur un travail parmi les plus ordinaires qui soient et les plus déqualifiés objectifs. Voilà, le travail n'est pas bien fait. C'est la seule façon de supporter ce travail que de dire, au moins on va lui donner un minimum de sens par la qualité du produit qu'on va remettre.
D'autres interventions? J'avais une question là.
Attendez,
non, avec un micro, c'est ça?
Oui, un micro, micro.
Voilà. Ici, là, et puis après là-bas.
Oui, je voulais dire à propos du travail bien fait, à propos des médecins, il y a 20 ans, on a complètement stoppé il y a ce qu'on appelle le numerus clausus. C'est-à-dire qu'on a empêché toute une série de jeunes qui avaient une vocation réelle en les collant à un quart de point, vous voyez, dans des conditions absurdes. Ce qui fait que 20 ans après, on se trouve dans une situation où il n'y a plus assez de médecins. Et de plus, comme vous disiez très justement tout à l'heure, les médecins n'ont plus la mentalité sacrificielle.
Oui.
Effectivement. Ils peuvent mener une vie normale, un équilibre entre vie familiale et vie de travail. C'est une vie possible que beaucoup de régions sont faites des vies hein, dans cette tradition. Enfin, je pense que l'erreur fondamentale, ça a été de sacrifier le travail bien fait à l'économie. Il faut bien savoir que ce numerus clausus a été certainement le résultat d'un vouloir économique. On trouvait que les médecins étaient trop chers.
Oui, oui.
Voilà, sécurité sociale trop chère. Donc, on a voulu restreindre et au total, on a empêché toute une génération de médecins de travailler comme ils le souhaitent.
Tout à fait. Tout à fait. Là, je ne peux qu'approuver ce
à côté là.
Oui.
Peut-être que je roule le tour à quelqu'un, non, mais ça fait rien.
Et ça va mettre en bleu et jeu.
Ça va être très bref. Vous avez parlé de Durkheim, vous avez parlé de Dominique Guédin, ces auteurs qui ont mis en évidence la vertu intégratrice du travail, l'intégration sociale par le travail. Alors, la question est la suivante, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, quand on voit le chômage de certains jeunes, la difficulté simplement d'accéder au travail parce qu'on n'est pas assez qualifié, enfin, toutes ces raisons-là, est-ce que vous avez le sentiment que le travail est en train de perdre sa capacité d'intégration sociale?
C'est une question très difficile, très difficile de répondre de façon générale. Globalement, je crois que oui, le travail reste un vecteur, comme l'avait dit quelqu'un, il reste le grand intégrateur. Il reste le grand intégrateur. Mais si vous regardez un peu au détail, il est vrai que les conditions de l'intégration ne sont pas bien réunies dans certains cas, en particulier lorsqu'il y a un problème d'adéquation du niveau des compétences à l'activité. Et qu'on ne développe pas suffisamment, justement, l'apprentissage qui est, à l'inverse, le moment où l'apprenti révèle son potentiel, révèle ses compétences. Il n'arrive pas dans l'entreprise avec une compétence académique toute faite, etc., mais il a la possibilité de se révéler. Comme on voit assez souvent des jeunes qui ont été embauchés comme boulangers, pâtissiers, dans les métiers de bouche en général, ou bien dans les cuisines d'un restaurant, etc. Mais là, on n'était pas bon en classe, mais on a littéralement explosé. On a trouvé le point d'application de notre, ce qui était finalement, ils ne disent pas comme ça peut-être, mais notre vocation la plus intime. Voilà. Donc, Je répondrai de façon très nuancée. Il y a encore un travail à faire en ce qui concerne cette adéquation. Par quelle voie est-ce qu'il faut, comme certains le suggèrent, remettre en cause le principe de la scolarité jusqu'à 16 ans? Est-ce qu'il ne faut pas passer à 14 ans, etc., pour justement ouvrir une fenêtre plus professionnalisante à des gens qui peuvent s'y gérer? Je ne sais pas. Voilà, excusez-moi, c'est vraiment pas une réponse.
Bonsoir, merci pour ce que vous avez partagé. J'avais deux, trois petites remarques, c'est ça,
oui,
à dire. La première que je voudrais mettre tout en haut, c'est que vous avez parlé du monde du travail qui sont industriels, j'avais l'impression d'entendre, mais pas que. Mais par contre, à aucun moment j'ai entendu parler, ou alors j'ai trouvé quelque chose, sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes, qui est quand même une question évidemment importante. C'est presque un degré équivalent de mois de travail, c'est énorme. Sachant que les femmes ont souvent double journée de travail, parce qu'il y a la maison.
Tout à fait.
Donc ça, c'est quelque chose qui me semble quand même incontournable, parce que la société s'appuie sur le travail des femmes aussi, qui ne sont pas que dans le soin d'ailleurs. La deuxième chose relève des seniors, qui sont peut-être injustement valorisés, tout en sachant que je sais qu'il y a des entreprises qui préfèrent du coup embaucher des seniors, dont la conscience du travail est plus élevée que chez certains jeunes, par ailleurs qualifiés.
Oui, mal aussi.
Voilà,
les seniors, on ne les aime pas trop non plus, parce qu'ils sont un peu jeunes.
Oui, je sais. Et sachant que, par exemple, vous avez cité l'Allemagne, en Allemagne, on réfléchit sérieusement à... Je rappelle que la retraite en Allemagne est à 67 ans. Et on est en train d'y réfléchir à la repousser à 70, voire 75 ans. Avec une rémunération équivalente du SMIC. Quand on sait que dans tous les autres domaines de la vie, on a le médecin, une sorte de professionnel qui disent qu'il faut quand même adapter l'âge, que ce soit dans la croissance ou dans la prise d'âge, à la tâche ou au sport, on se demande qu'est-ce qui va rester comme travail pour ceux qui vieillissent et dont le corps ne peut plus assurer un certain nombre de choses, sachant que par ailleurs, les tâches relevant d'une activité intellectuelle sont réduites, ne sont pas prises en compte ni valorisées. Je voudrais juste revenir, vous avez parlé de l'évaluation au travail. Personnellement, moi, j'ai vécu une certaine évolution où ça n'est plus un barème, où on mesure, on n'évalue plus en fonction des fiches de poste, bien qu'elles existent parfois, mais on demande de plus en plus aux salariés de s'auto-évaluer. Ce qui est un piège, parce qu'on a une autre perception du travail. Et vous avez dit très justement, à un moment donné, je ne sais pas si c'est le nouveau langage, en tout cas moi dans mon entreprise, j'ai remarqué, on ne parle plus d'avoir un rapport objectif à son travail, on pose quel est ton sentiment.
Par
exemple, le travail, les sentiments, ce chose, l'un m'appartient en privé, et je peux le traduire autrement. Et c'est de ce fait, on peut couler quelqu'un. Par le simple fait qu'on lui a donné les moyens de se prendre le pied dans le tapis.
Tout à fait.
Et ça, c'est excessivement pervers. Je finirai juste, vous avez parlé des logiciels, de mesurer les clics de souris, etc. Il y a quand même beaucoup de travail où l'employé est filmé, tout est enregistré. Et voilà. Et ça, c'est pas
Orwell. Oui, oui.
C'est déjà du passé, ça continue.
Oui, oui. Donc, c'est Little Brother. On est surveillé par ses pairs.
Exactement. Et sachant que beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans l'entreprise au niveau numérique sont rattrapées par le bon sens humain ou la qualification humaine, et qui n'est pas valorisée dans ces cas-là.
D'accord. Je suis d'accord sur toutes vos remarques.
Mais je voulais ça pour connaître le sentiment, vu que vous avez une vue plus large.
Oui, mais je n'ai pas pu entrer dans tous les détails. En ce qui concerne le différentiel homme-femme, salarial homme-femme, rassurons-nous en disant que la situation progressivement évolue plutôt dans le bon sens. Plutôt. Là aussi, j'éviterai de mettre les choses au noir. Il y a une évolution qui est favorable et les écarts se sont réduits. Alors, je donnerai pas de chiffres précis, mais aujourd'hui, l'écart, me semble-t-il, se situe aux alentours de 10 à 15%, ce qui est déjà considérable, bien entendu, et inadmissible. Mais on était à 20, 25%, donc une évolution positive, je pense.
Une autre question ? Oui.
Bonsoir, vous avez parlé du salaire de M. Tavares. Vous avez mis en évidence l'illustration de la financiarisation du monde économique, dans lequel il y a un décalage total entre le travail accompli et la rémunération qui est allouée à une personne, aussi compétente soit-elle, d'une certaine manière, arrive même à justifier son salaire. Parce
que,
effectivement, quand j'ai entendu ces chiffres-là, je me rappelle d'une intervention de M. Tavares qui, effectivement, expliquait qu'il y avait un marché du prix des chefs d'entreprise dans le monde. Et donc, finalement, le prix qui était le sien était le bon prix.
Oui, oui.
Alors, ça, c'est
il était en évaluation basse.
Voilà. Et donc, il s'auto-évalue d'une certaine manière en disant j'ai quelque part le bon prix qui m'est alloué. Ceci pour dire qu'il y a à la fois cette dislocation entre la rémunération et le travail, d'une certaine manière, puisque un salarié qui est à la base, je dirais un salarié qui accomplit son travail, aussi bien ouvrier, agent de maîtrise, ingénieur, n'est plus, je dirais, considéré comme étant quelqu'un ayant une rémunération, je dirais, qui puisse, comment dire, pas comparer, mais être de manière intelligente, pouvoir, je n'ai pas trouvé le terme exact, s'évaluer d'une certaine manière, dire mon travail aujourd'hui a une valeur de ce niveau-là.
D'accord.
Il y a une dissociation, en quelque sorte, entre le travail et ce qu'il perçoit réellement de son travail. Je parle du point de vue économique. Donc là, ça crée effectivement un monde qui est complètement déphasé en quelque sorte, puisqu'on n'a plus vraiment un barème, comme on a pu avoir dans les années 80-90, pour en parler d'une répartition de la richesse d'entreprise, une valeur par exemple qui pouvait aller de 1 à 20. Aujourd'hui, on est dans des niveaux qui sont complètement, ubuesques.
À 2 à 500.
Et deuxième élément que je voudrais mettre en avant.
Même John Pierpont, Morgan, le patron, le fondateur de la banque Morgan, avait dit, et d'autres avec lui, il ne faut jamais dépasser un rapport de 1 à 20, je crois, dans une entreprise, si on veut casser la politique.
Et un deuxième aspect que je voudrais aussi mettre en évidence, c'est l'absence, je dirais, de contrôle de l'État. Je suis encore élu au CSE d'une entreprise dans la région parisienne.
Oui.
Et donc je peux constater, par exemple, on fait appel à la direction du travail sur des problématiques justement d'ubérisation, où j'ai pu argumenter, faire valoir ce que vous avez donc décrit, à savoir que en fait, vous êtes sous la responsabilité d'une organisation structurée, organisée, je dirais, de manière industrielle, et or le travail de ces salariés est considéré comme du travail à la tâche, de par leur contrat, puisque ces salariés, dans un secteur d'activité, vous avez parlé des sondages, sont des salariés avec des CDD d'usage. Or, il arrive que ces salariés ont des centaines de contrats dans l'année. Et donc, avec, au prétexte qu'une convention collective autorise de pouvoir faire usage de ces contrats CDD d'usage, on arrive à des abus. Et on arrive à tel point à des abus d'organisation, je dirais, de la manière dont le travail est structuré et organisé, pour que les gens ne puissent pas remplir les conditions pour pouvoir accéder à un CDI.
Ouais.
Donc je suis allé dans l'inspection du travail pour ceci, et j'ai écrit Mais à ma grande surprise, nous n'avons pas eu de réponse à la question du travail. Et donc, finalement, je me suis rendu voir l'inspecteur du travail en essayant d'avoir ce face-à-face avec lui. Et donc, j'ai eu ce face-à-face et j'ai discuté avec l'inspecteur du travail qui m'a dit, mais monsieur, je travaille dans un secteur, je suis dans la région parisienne, vous savez, comme moi, qu'il y a une politique organisée depuis des années sur l'organisation des services publics, sur la maîtrise de ces services publics et des économies, puisque nous avons un État qui est endetté, et donc il faut faire des économies, et de par là même, beaucoup d'inspecteurs du travail n'ont plus la capacité et je dirais le temps nécessaire pour pouvoir aller dans les entreprises, puisque en l'occurrence dans le secteur où j'étais, sa principale préoccupation c'était d'aller sur des lieux de travail où il y avait beaucoup de travail, je dirais, clandestin, puisqu'on était en région parisienne, et il m'a dit, ça c'est la première préoccupation que nous avons nous aujourd'hui, inspecteurs du travail dans le secteur, c'est de lutter contre le travail clandestin qui est un vrai fléau dans la région parisienne, surtout dans les entreprises de bâtiments et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien que votre démarche est tout à fait louable et qui est tout à fait sensée, je dirais, appuyée sur des faits, n'est pas, entre guillemets, prioritaire dans ce que j'ai à faire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, je raconte cette histoire pour dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, dans le management des entreprises, on retrouve une organisation qui est faite, où on sait qu'on peut prendre des risques, entre guillemets, juridiques, sachant que pour une minorité, puisque là, en l'occurrence, pour le cas dont je parle, il y a quelques jours, le tribunal a rendu et requalifié ce salarié en CDI, donc avec toute la conversation, puisqu'il a été prouvé que, ce que vous venez de dire, quand vous disiez par rapport à l'entreprise à Quimper, que ces gens-là faisaient un travail, je dirais, régulier, permanent, voilà. et contribuaient à l'activité normale de l'entreprise.
Accélérer, madame, s'il te plaît.
Non, simplement, ma question aujourd'hui, est-ce que l'État n'a pas finalement abandonné, je dirais, le monde du travail en ne permettant
c'est
plus.
Bon, on a compris la question.
Vaste question à laquelle je suis dans l'impossibilité de répondre comme ça simplement. Je dirais non. Non. Mais c'est vrai que il y a des choix politiques parfois qui sont assez étonnants, comme le fait effectivement de ne pas conférer à l'inspection du travail la place qui devrait lui revenir et les moyens y accorder, bien sûr. Et ça explique la relative impuissance de notre collègue, de mon collègue, de votre inspecteur.
Peut-être une dernière question, là, parce qu'on a...
Oui,
voilà.
Pas trop lent.
Très vite. Deux remarques. On a beaucoup parlé du président de Stellantis, 10, pardon. Il faut aussi voir ce qui monte. Ce qui monte, ce sont les entreprises à mission. Ouais. Ce qui s'est passé chez Danone avec Emmanuel Faber, ce qui se passe à la Banque Postale. Autrement dit, qu'il y a des formes de responsabilité sociale des entreprises qui est en train de bouger. Oui. C'est intéressant d'observer. La deuxième chose à propos de madame, c'est un jour, il faudra aussi peut-être avoir un thème sur démographie et travail. Ce qu'on nous raconte, il faut aller voir ce qui se passe du côté du Japon. La pyramide des âges explique un travail à 70, 75, voire 80 ans. Aujourd'hui, le taux de fécondité dans notre Union européenne, il est à 1,56, il va encore baisser. Ça veut dire que dans les générations futures, le lien travail-démographie, hein, c'est un lien qui est interdépendant. Et enfin, par rapport aux trois caisses nationales, vous avez cité... la CNAV, et moi je citerai la CNAV puisque j'y étais administrateur national pour la CFDT, avec une collègue, j'ai été très très frappé de voir combien il y a quelques années quand on a commencé à travailler sur le thème de la compatibilité vie familiale, vie professionnelle, s'est établi très vite un clivage. Il y avait un regard d'un certain nombre d'organisations syndicales et patronales du côté de la CGE-PME, c'était combien ça coûte, combien de crèches, combien de journées, etc. C'était une approche complètement financière et mécanique. Et nous, ce n'était pas du tout notre propos. Et on était un tout petit peu rejoint par une ou deux personnes du MEDEF c'était de voir au fond quel est le sens d'une telle réforme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette compatibilité-là, en termes de vie privée, de vie sociale, de vie culturelle, de vie familiale, de vie professionnelle, bien sûr, avec la signification qu'elle peut avoir, mais c'était encore une époque où ce type de propos n'avait pas vraiment cours. Et c'était assez un peu surprenant de voir qu'on avait une approche qui était totalement comptable et qui n'était pas du tout sur ce que vous avez appelé la prise de distance par rapport au travail, etc. Ou tous les propos, bien sûr, de l'ami Laurent Berger.
Et probablement une approche à courte vue, puisque toutes ces améliorations, ces enrichissements du travail sont de nature à améliorer la qualité de ce travail, tout simplement. Et la productivité de l'entreprise, même si on a affaire à des caisses nationales de sécurité sociale, bien sûr.
Voilà, je crois
que... Pour conclure, je voudrais vous remercier d'avoir votre attention. Et vous raconter une ou deux petites histoires pour sortir un peu de cette atmosphère travailliste. La première petite histoire, je l'ai racontée à Isabelle tout à l'heure, concerne Clémenceau qui était à la télé ce jour-ci dans un excellent film et son voisin qui était un chanoine. Il se trouve que une grosse branche d'arbre du voisin déborde sur son propre terrain à Clémenceau et lui demande de bien vouloir élaguer, etc., ce qu'il fait très volontiers. Et donc Clémenceau se fend d'un courrier de remerciement. Mon père, je peux vous appeler mon père puisque grâce à vous j'ai vu le jour. Et le chanoine lui répond, mon fils, je peux vous appeler mon fils puisque grâce à moi vous avez vu le ciel. Voilà, dans un contexte qui en plus était un peu troublé, nous sommes au début du 20e, c'était une belle illustration de la fonction pacificatoire ou pacificatrice de l'humour. La seconde, c'est concerne l'âge, un thème qui se prête bien à l'humour généralement, avec le mot club de Mauriac par exemple, il dira, j'ai peut-être un pied dans la tombe, mais je ne me laisserai pas marcher sur l'autre. Non, l'histoire est la suivante, c'est un monsieur qui veut faire un contrat d'assurance vie, il se présente à la compagnie, etc. Et il est bien accueilli. Alors, monsieur, très bien, quel âge avez-vous, monsieur? 78 ans. 78 ans? Ah, mais vous savez qu'à cet âge-là, on ne fait plus de contrat d'assurance vie. C'est pas possible. On ne fait plus de contrat d'assurance vie, mais je suis quand même un peu surpris parce que mon père est né il y a 6 mois et on lui a fait sans problème un contrat. Il a quel âge, mon père? 98 ans. Ah bon? Attendez, je regarde et il regarde son ordi. Il dit, ah oui, en effet, il a été fait. Ah, je vois ce qui s'est passé. C'est mon jeune collègue qui venait de prendre ses fonctions. Il a manqué une marche. Voilà. Votre père a eu Bolloré. Est-ce que vous pouvez venir, par exemple, jeudi, en début d'après-midi, 14h? Oui. Ah non, attendez. Jeudi, je ne peux pas parce que mon grand-père se marie. Votre grand-père se marie, mais quel âge a-t-il? 118 ans. 118 ans. Et c'est maintenant qu'il se marie, mais pourquoi a-t-il attendu si longtemps? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'est pas plus vif chez ses parents. Ces livres.
signaler que lorsque vous allez sortir, vous serez invité à participer aux frais de la quinzaine. Nous ne recevons absolument aucune subvention de personne. Nous fonctionnons avec tout ce que vous pouvez donner. Et je sais que vous serez généreux. Merci beaucoup.